哇哇
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans toutes les pressions et les répressions.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Clément Nouguier, assistée de June Loper, avec Juliette Delperroux à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, comme des femmes gilets jaunes se mobilisent pour dénoncer les violences policières, de plus en plus de voix s'élèvent contre la banalisation de l'usage de la force, avec un néologisme, la bénalisation de la violence.
Il n'y a pas d'agressivité, il y a juste des revendications parce qu'on n'en peut plus et on se fait attaquer comme si c'était la guerre. On n'est pas en guerre, on manifeste.
Et donc on a deux paroles, on a la parole du ministre, la parole des syndicats et puis les citoyens qui envoient en fait leur témoignage et il va falloir faire avec tout ça.
Dites-moi monsieur, c'est sérieux les bruits du coup ?
Pression et répression, pression sociale et répression policière. Et depuis l'Andalousie, où je me trouve, ça résonne étrangement avec la vieille répression franquiste qui refait surface dans les fosses oubliées des victimes du coup d'état fasciste de juillet 36, quand le nouveau parti Vox, nationaliste et fascisant, surgit au Parlement andalou. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. En France, les forces de l'ordre n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Il faut rétablir l'ordre républicain avec force. Et au fil des samedis de mobilisation des Gilets jaunes, le nombre de blessés s'accumule, surtout du côté des manifestants, mettant en cause la stratégie de maintien de l'ordre, Give.
Oui, alors que le décompte tenu par le journaliste David Dufresne continue de s'étoffer, 258 à 7 heures, de vidéos coup de poing, comme les poings du commandant Andrieux de Toulon, des chercheurs comme Sébastien Rocher nous expliquent pourquoi une autre police est non seulement possible, mais surtout souhaitable.
Alors de l'autre côté, du côté des manifestants, gilets jaunes ou juste sympathisants à cette contestation sociale, le prix du retour à l'ordre est très lourd à payer, Charlotte.
Plus de 1700 blessés, dont 82 graves depuis le début du mouvement. Énucléation, mutilation, tir de flashball en plein visage, l'IGPN, la police des polices, a été saisie par la justice pour 78 affaires et 200 cas lui ont été signalés. Les gilets blancs, ces équipes médicales bénévoles qui vont au secours des blessés, parlent de véritables scènes de guerre et de blessures de plus en plus graves. Mais pas un mot de tout cela du côté de la place Beauvau. Un silence qui commence à se faire ressentir et qui alimente la colère des gilets jaune. Dimanche 6 janvier, les femmes manifestaient à Paris pour réaffirmer les revendications du mouvement, mais aussi et surtout pour dénoncer ces violences policières qui se multiplient de samedi en samedi.
Comme un bruit qui court, pression sociale et répression policière, c'est jusqu'à 17h sur France Inter.
Depuis plusieurs jours, le soleil est aux abonnés absents dans la capitale.
Des policiers et des gendarmes, beaucoup plus offensifs.
Vous savez, on fait pas du maintien de l'ordre avec des pâquerettes, j'ai envie de dire. Hein.
Allant au contact, comme ils disent.
À 14h23, je me suis pris un impact de flashball sur le haut du visage.
Mais rassurez-vous, les nuages devraient dès demain laisser peu à peu place au soleil pour réchauffer les cœurs.
Les détonations de grenades lacrymogènes se font bientôt entendre. Les tirs de balles de caoutchouc aussi.
Trois personnes qui sont visées à la tête. Faut arrêter les conneries.
Quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit.
T'as pas entendu comme un bruit ?
Comment ?
T'as pas entendu comme un bruit ?
Comment ?
On ne fait rien, on ne fait que marcher et on se fait tirer dessus en pleine tête.
Comme un bruit qui court.
Dimanche 6 janvier. Il est 11h du matin, on est place de la Bastille à Paris. Et aujourd'hui, c'est une mobilisation un peu particulière. Une mobilisation des femmes gilets jaunes. Féminines, mais pas féministes. C'est-à-dire que les revendications restent les mêmes que celles des gilets jaunes en général.
Et Macron au cimetière !
Beaucoup de femmes aussi avec des bonnets phrygiens, des ballons jaunes aussi. Pour un monde plus juste, les gilets jaunes triompheront. Tout ça, c'est écrit au dos des gilets jaunes. Et de l'autre côté, CRS, que diras-tu à tes enfants ? Nous sommes vos grands-mères, vos mères, vos femmes, vos filles. Vous mutilez des innocents pauvres. Chers policiers, je n'ai ni armes, ni bout de bois. Je n'ai que mon feutre et ma voix. Je suis justement une Française en colère. Je suis une mère, une femme, une sœur, une fille. si vous devez tirer, évitez ma tête, s'il vous plaît. Ce serait sympa.
On va suivre le mouvement, on va aller au rond-point. Tu viens, Mazette, tu me donnes la main, s'il te plaît.
Tout le monde traverse le rond-point et se dirige sur la place de la Bastille.
Ah là, ça y est, là, ils sont chauds.
Pas trop quand même.
Vas-y, vas-y devant.
Hein. Moi, j'ai deux enfants.
Hein. J'en ai trois aussi. Ouais, hein.
Excusez-moi, là, c'est les cartes de CRS qui arrivent, là.
C'est ça.
Le samedi, on est gazé.
Non, mais là, on est dimanche.
Ouais, mais là, c'est que des femmes.
Ah, attention, hein. C'est dimanche, on est les femmes. On est les femmes.
Ça serait
hein.
Grave.
Ils n'auraient pas peur.
Vous êtes venus d'où?
Du Nord.
Hier, on était à Lille et aujourd'hui, on est ici.
Ouais, samedi prochain, on ira sûrement ailleurs.
Vous avez fait toutes les mobilisations depuis le 17 novembre ?
Presque. Il y a des jours où on a travaillé, malheureusement on ne peut pas venir, mais sinon on serait bienvenu aussi.
Vous faites quoi comme travail ?
Je travaille chez Renault à Flins.
Pourquoi vous venez alors ?
Parce qu'on n'est pas des bêtes, on n'est pas des animaux. On a le droit de vivre et avoir à manger comme tout le monde. Même si on travaille, on n'y arrive plus.
Vous travaillez chez Renault depuis combien de temps ?
Moi je suis en intérim. Ça fait déjà 12 mois, il me reste que 4 mois à faire et après je ne sais pas ce que je vais faire parce que malheureusement l'intérim ça ne dure pas toujours.
Et avant Renault, vous étiez où ?
À Renault Douai, toujours en intérim. C'est difficile d'avoir un emploi fixe en allant. Je fais quand même 300 km par semaine en aller, 300 pour revenir et j'ai 4 enfants à la maison.
Et alors du coup, vous faites toutes les semaines, vous partez à Flins pour travailler, vous dormez où quand vous êtes...
En fait, j'ai loué une chambre.
Elle était obligée de louer du coup
une chambre, ouais. Et la chambre me coûte 450 euros par mois.
Et votre salaire du coup c'est combien ?
J'ai un salaire de 3 000 euros, mais quand vous enlevez la chambre, les déplacements, l'essence, le péage, il me reste même pas 1500 euros.
Vous appelez comment ?
Sabine.
Là vous avez une pancarte, je suis ton amie.
Voilà, je suis ton amie. On n'est pas là pour la violence, pas du tout.
Monsieur le commissaire, est-ce que je peux prendre le micro ?
Vous êtes femme gilet jaune ? Elle est à vous cette manifestation ?
Non, c'est un truc de violence comme prévu ici à midi. Désolé.
Bah oui, il y a quand même une minute de silence. Exactement. Et on soutient à tous ceux qui ont été emprisonnés depuis le début des mobilisations.
Pour rien mercredi, hein. Cette femme, c'était nous. Hein.
Ah ouais, vous avez été
interpellée sur les champs. Je promenais ma chienne avec un ami. On sortait du McDo. On a commencé à vouloir descendre sur la rue et puis il y avait donc une barrière de CRS. Donc on dit bonjour, on voudrait passer, que se passe-t-il ? Ils nous disent non. Et là tout de suite, c'est première sommation.
Obéissance à la loi, dispersez-vous.
Pardon ?
Première sommation, on va faire l'usage de la force.
Deuxième sommation, on va faire l'usage de la force. On a fait oulala, donc vu qu'il y avait beaucoup de touristes et de personnes lambda, hein, des citoyens, on a traversé la rue. Et là, en même pas 500 mètres après, on s'est fait encercler. On n'était que 5, on se connaissait pas. Moi, j'étais avec 2 amis, donc un couple derrière nous qui baladait. Ils ont commencé à ramener d'autres personnes dans le cercle pour faire attroupement. Et là, ils nous disent, bon, ben, contrôle d'identité, il n'y a pas de souci, on donne nos pièces d'identité. Le bus arrive, pour moi, je prends ça à la rigolade. Je dis, allez, vous montez, j'ai pardon. Il fait, oui, on vous met en retenue pour vérification d'identité. On s'est retrouvés donc dans le 13e, place d'Italie, en cellule collective numéro 2. Donc on a quand même nos portables, nos sacs, on a fouille, palpation.
C'est pour ça qu'on a vu des photos circuler.
C'est ça, on a fait des selfies en rigolant parce que c'est une blague. Non, après on a vu l'OPJ, on a dit mais pourquoi on a arrêté ? Ils ne savaient pas plus que nous. On nous a dit qu'il y avait une quarantaine de gilets jaunes dans le bus. Je dis mais c'est faux. Aujourd'hui je le suis certes, mais sur le coup je promenais juste avec des amis, on sortait du McDonald's.
Le chiffre qui frappe ce soir, c'est celui des interpellations. Près de 1400 sur toute la France.
Du coup on a dit on va faire un hommage et on va rejoindre le mouvement.
Voilà. Vous, c'est la première fois que vous vous retrouviez en cellule ?
Ah, complètement, j'ai mis en cellule. Je suis maman, j'ai 38 ans, maman de 4 enfants. Chez moi, il y a une certaine droiture, des règles. Et là, ma fille, elle me dit, bravo maman, c'est toi qui te retrouves en cellule. Tu vois, tu nous as toujours dit qu'on ne te retrouve jamais en garde à vue. Hein. Je dis, oui. Malgré moi, je me suis retrouvée en cellule. Voilà.
Vous appelez comment ?
Et Natalia. Allez-y.
Merci. Pardon. Ah, c'est là, il fait.
manif. On était tous un peu naïfs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule de la vie. Ce jour-là, tout le monde y croyait. C'est là que je t'ai rencontré.
Oh, attention!
À la manif, on était tous très positifs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule du pays. Ce jour-là, tout le monde en rêvait. C'est là que tu m'as regardé. À la manif, on était tous très objectifs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule de la ville. Ce jour-là, tout le monde espérait. C'est là que tu m'as embrassé.
David a perdu 4 dents, une partie de sa gencive et de sa mâchoire.
Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a les policiers. Ah, ça commence à chauffer. Qu'est-ce qui se passe, vous avez vu?
Ils ont voulu couper. Ah. Et je me suis mis devant la voiture et tout le monde m'a rejoint.
Vous êtes mis devant la voiture des policiers?
Ouais.
Avec votre canne?
Oh, mais c'est pas la première.
Allez-y.
Ça, derrière.
Gave Vignon.
Je ne laisserai pas passer.
Vous êtes allé en garde à vue?
Oui, rue Vignon.
Ah oui, vers Madeleine.
Étouffé rue Royale. Étouffé par les policiers qui voulaient attraper Éric Drouet.
Montez tous.
Oula,
bon sang, bonsoir.
Vous avez une pancarte avec toutes les photos des gens
Malheureusement.
Mais les photos des gens qui se sont pris des coups de flashball, là, il y a Vanessa blessée à Paris, Lola blessée à Biarritz, Constant blessée à Mondeville. Enfin, il y en a plein, je ne vais pas tous les lire. Jérôme et Borgné à Paris.
C'est une petite liste, il y en a beaucoup plus. Même si c'est dangereux, je viendrai. Il ne se rend pas compte dans l'état de colère qu'on va être de plus en plus. Je ne supporte plus ce mépris. Je ne supporte plus. Quand on voit Castaner, là. Castaner, l'ancien brigand de Marseille, là, qui nous fait taper dessus, là. Moi, le 1er décembre, j'ai reçu un flashball dans le ventre. Oui, en traversant la rue, parce qu'ils nous chargeaient, j'allais pas assez vite. Ils m'ont visé. Heureusement, j'avais mon téléphone dans la poche. La vitre a éclaté. J'ai encore un bleu, ça fait plus d'un mois. C'est plus possible. Vous avez vu ce qui s'est passé encore hier? Ils nous bloquent, ils nous énervent. Comment voulez-vous que les gens ne réagissent pas non plus? Et quand je vois ça, je serais prête moi aussi à leur rentrer dedans. C'est pour vous dire, j'ai 61 ans, je suis une mamie. Mais je ne supporte plus cette violence gratuite.
Vous avez eu l'habitude de manifester ou pas?
Non, avant je n'ai jamais manifesté de ma vie, moi.
Ah bon?
Ah, jamais. Non, je vais y aller parce que j'ai peur qu'ils me bloquent, là. Moi, j'ai du mal à marcher, donc...
À la manif, on était tous. Défiler sous la pluie pour changer la gueule de la vie. Ce jour-là, tout le monde y croyait. C'est là que tout est arrivé. À la manif, on était tous très positifs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule de la vie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est plus quittés.
Vous êtes infirmière, en fait?
Aide-soignante.
Aide-soignante.
Oui.
Vous avez mis la blouse blanche et par-dessus le gilet jaune.
Oui, parce qu'on est blouse blanche et gilet jaune. C'est indissociable. C'est ça qu'on vient défendre aujourd'hui. Le droit de tous les citoyens à vivre dignement et à être soignés dignement. Ils osent peut-être pas taper sur les femmes, mais hier j'y étais et ça gazait à gogo.
C'est pour ça que vous avez pris vos lunettes de plongée?
Bah oui, je suis prévoyante. Les lunettes de plongée, j'ai tout ce qu'il faut parce que j'ai déjà été gazée. Je sais pas ce qu'ils mettent comme produit là-dedans, mais en tout cas, c'est irrespirable. On a l'impression de mourir. Hier, j'étais parquée rive gauche alors que tout se passait super bien. Ils nous ont gazé tous les 2 secondes. On est resté 1 heure bloqués là-dedans. Il y en a qui faisaient des malaises, il y en a qui vomissaient, c'est indigne. On n'a même pas compris pourquoi on était gazé. C'est pour ça que je suis équipée.
Et vous continuez à venir quand même?
Je viens quand même, parce que tout le monde a peur, mais on vient tous pour défendre nos droits, c'est maintenant ou jamais. Et moi je continuerai à être gilet jaune jusqu'à la mort. On est le seul pays qui utilise les bombes, le désencerclement contre les manifestants, c'est très grave.
Il y a des grenades, ouais.
C'est très grave, il y a eu des morts, il y a eu des mains arrachées. Là, on s'insurge quand il y a des violences contre les policiers, qu'on s'insurge contre toutes les violences alors. Toutes les violences que les manifestants subissent. C'est une honte et je suis révoltée. Donc, comme je dis souvent, oui, j'ai peur, mais j'ai plus de courage que de peur et je pense qu'on est tous dans le même cas aujourd'hui.
À chaque manif. Face, et la place que t'occupes me dépasse. T'as l'insigne ennemi sur la poitrine, t'as l'insigne indigne qui terrasse. Tu nous tases, tu nous nasses, tu nous frappes, tu nous gazes, tu nous chasses. Tu nous tires dessus, un sbire de plus à la solde des pires obus. Ne vois-tu pas à qui tu barres la route? Et l'huile sur le feu que ton camp rajoute. Comment tu brises les rêves, broie la grève d'une foule qui a faim, qui refuse la voûte. Une foule qui défend ses droits et ceux des gosses qui t'attendent chez toi. Ne vois-tu pas le paradoxe qui découle quand les molosses de ta police se défoulent? Sale boulot. Tu fais le sale boulot.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Oui, bonjour, c'est Charlotte Perry.
Au troisième étage.
Merci.
Je suis avec mon amie qui est avec moi pendant la manifestation.
Bonjour.
Assieds-vous.
Merci.
Donc, je m'appelle Vanessa, j'ai 34 ans. Quand je vois ce qui se passe en ce moment au niveau des lois, au niveau de la France, ça me déplaît. Donc j'ai décidé d'aller manifester pacifiquement, gentiment, histoire de dire ça ne va pas. Nous sommes arrivés sur Paris vers 11h.
C'était quand ?
C'était le 15 décembre. Ensuite, vers 14h, nous étions aux Champs-Élysées. Ça se passait très bien, personne d'agressif. Il y avait même une petite grand-mère avec son déambulateur et son gilet jaune. Donc c'était vraiment, il y avait même des gens qui faisaient des courses. Donc il y avait des passants, il y avait tout. Et tout se passait très bien. À 14h20, nous voyons des policiers arriver sur la gauche, il me semble. Donc ce sont des BAQEUS, visiblement. Hein, ce ne sont pas des CRS, ce sont des gens de la BAC. Qui sont arrivés donc sur le côté. Moi, j'étais à l'autre bout du trottoir. On a fait demi-tour. À 14h23, je me suis pris un impact de flashball sur le haut du visage. Moi, je suis d'une famille de militaires. Mon père était pompier, mon grand-père gendarme. Donc, défendre les Français, c'est ce qu'on m'a appris, et aimer la France. Et je me suis fait attaquer gratuitement. Je vois que la police a une haine envers les Français que je ne comprends pas. On n'est pas des casseurs, on n'est pas des agresseurs, comme ils disent. On en a juste marre, on veut juste survivre. Moi, je veux défendre ma mère, à qui on va retirer sa retraite de veuve, à ma grand-mère on va faire pareil, comment elles vont faire pour vivre, à ma sœur qui est mère célibataire et pareil, à qui on diminue les aides, à moi qui ai du mal à trouver ce ne serait-ce qu'un CDI, à moi qui m'occupe de ma grand-mère en tant qu'auxiliaire de vie et que je ne suis pas considérée par l'État et pourtant c'est mieux d'avoir ma grand-mère à la maison où on participe économiquement à tout et plutôt que de la mettre dans une maison de retraite, l'État considère que je dois être rémunérée 380 euros pour ça. Où est la justice? J'ai juste voulu manifester et maintenant je n'arrive même plus à sortir de chez moi.
Pourquoi vous n'arrivez plus à sortir?
Parce que je suis traumatisée. J'aurais pu y passer, j'ai des séquelles, je dois passer des mois encore à l'hôpital pour faire de la rééducation. J'ai des problèmes de mémoire, j'ai un œil qui voit presque plus rien. C'est pas normal, c'est pas humain, on n'est pas en guerre. Je me suis juste promenée dans la rue pour dire ça suffit. Et maintenant, ma vie et la vie de mes amis et de mon entourage est touchée à cause de ça. Mes amis m'ont vu le crâne ouvert avec l'os qui sort. On partait, on ne faisait rien, on partait, on marchait. Des fois, il y a des débordements, mais c'est des fois. Et combien il y a de débordements envers les Français? Ça, on n'en parle pas à la télé, on montre pas tous les blessés. On parle d'un boxeur qui a tapé un policier, d'accord. Mais est-ce que vous parlez du nombre de personnes qui ont le visage arraché à cause d'un flashball? Il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui se sont fait tirer en plein visage. Ce n'est pas légal. On est en France, on n'a pas à subir ça. On n'a pas été leur tirer dessus, on leur a pas craché dessus, on ne les a pas insultés. On marchait dans la rue. Pour un pays des droits de l'homme, ils sont où nos droits?
Vous étiez loin, vous, des policiers, quand c'est arrivé?
Ceux qui m'ont tiré dessus, ils étaient à 3 mètres. J'étais tirée à bout portant. On était sur le même trottoir. Je vais passer des semaines à l'hôpital, encore, à faire de la rééducation au niveau de mon œil, au niveau de mon cerveau, parce que mon cerveau a été touché. Tout mon os là, a été cassé, un bout s'est retourné, a touché mon cerveau. On m'a mis des plaques au niveau de mon visage, parce que sinon, mon visage serait déformé. Il est déformé de toute façon ici. J'ai une cicatrice sur le visage qui se voit et mon œil ne verra plus comme avant. Et ça ne se remettra pas. Quand je vois l'État qui défend un policier qui tabasse un gamin ou des manifestants, ok, et les blessés français, vous en parlez? Non, vous vous en occupez, vous les avez appelés, vous... Non. Moi, je suis rentrée chez moi, tout le monde s'en foutait. Je suis rentrée chez moi après mes deux interventions du crâne. Ce sont des associations, ce sont des inconnus qui m'ont aidée. On nous harcèle, on nous maltraite, on nous frappe, on nous marque à vie, on nous défigure. Il y aura des morts, va y avoir des morts, ça va mal finir, mais on n'a plus le choix. Moi, je peux vous dire qu'autour de moi, j'ai... Par exemple, mon compagnon, on l'a appelé pour lui dire que je me suis pris un coup de flashball. Après, on l'appelait pour lui dire que j'avais une hémorragie. Faut comprendre que c'était pas facile pour lui. Après, je suis rentrée avec la tête. On n'aurait même pas dit moi. J'avais un visage qui n'était même pas le mien. Ça a été compliqué pour lui. Et de jour en jour, je vois qu'il s'énerve. Je vois qu'il a de plus en plus de haine parce qu'on ne nous reconnaît pas. Moi, au début, je voulais pas être énervée. Je voulais pas me montrer. Mais je suis énervée et outrée de voir qu'on ne nous considère pas, qu'on est des moins que rien. Et qu'on est, on est des petits sables pour eux. C'est ça, on n'est rien, on est juste bon à payer des impôts et c'est tout. Il faut comprendre aussi psychologiquement d'être traité comme n'importe quoi, ce que ça peut faire, la violence qu'on peut vivre, ce que ça peut faire. C'est pas possible de vivre comme ça. Il faut que l'État réagisse, il faut que l'État prenne en considération les Français.
L'ancien boxeur professionnel Christophe Dettinger, qui s'en est pris à des gendarmes samedi lors de la manifestation à Paris, s'est rendu à la police.
Cher ami Gilles Jaune, c'est moi la personne qui a affronté les CRS... Le samedi 5 janvier.
Il était placé en garde à vue dans une vidéo diffusée sur Facebook.
J'ai fait toutes les manifestations du samedi sur Paris.
Il explique que la colère était montée en lui.
J'ai vu la répression qu'il y a eu. J'ai vu la police nous gazer. J'ai vu la police faire mal à des gens avec des flashballs, j'ai vu des gens blessés, j'ai vu des retraités se faire gazer.
Qu'il a mal réagi, mais qu'il avait voulu se défendre.
Et à un moment, la colère est montée en moi, et oui, bah, j'ai mal réagi.
Après s'être fait gazer par des CRS.
Peuple français, gilet jaune, je suis de tout cœur avec vous. Il faut continuer pacifiquement, mais continuer le combat, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Vous aviez fait toutes les manifestations ou des gilets jaunes?
Non, moi, j'ai pas fait toutes les manifestations. Moi, c'était la première où j'allais. Mon amie, on avait fait plusieurs. Elle en avait fait, tu en avais fait combien, toi? Deux, trois? C'était la troisième?
C'était la quatrième, je crois. Oui, la quatrième.
Vous vous appelez comment?
Je m'appelle Elena. C'est la première fois que mon conjoint et moi-même avons décidé de manifester. On a senti que c'était quelque chose qui avait vraiment une crise sociale très importante et que ça touche la majorité des Français. Moi, j'ai un père qui est retraité et qui est veuf également. J'ai aussi été au SMIC toute seule avec un loyer à payer et c'est difficile de s'en sortir. Il y a tellement de choses qui sont honteuses qui ne vont pas dans ce pays, que ce soit la justice sociale, la justice fiscale. En fin de compte, j'ai l'impression d'avoir grandi dans une illusion, la France illusoire des valeurs, des belles valeurs liberté, égalité, fraternité. Alors ces valeurs-là, soit on les a perdues et on nous a maintenus dans cette illusion, ou soit là on est en train de les perdre et c'est extrêmement grave. Pour la première fois de ma vie, j'ai peur de la police. Je ne veux pas laisser ma peur prendre le dessus parce que je ne veux pas être une lâche et parce que je garde espoir aussi que notre lutte aboutissent à une France meilleure. Parce que moi aussi, je suis fière des valeurs de la France et des Français, mais par contre, j'ai honte de notre gouvernement.
Vous faites quoi dans la vie?
Alors, j'ai été téléconseillère pendant 8 ans. Aujourd'hui, je suis en phase de réorientation professionnelle. J'ai l'intention de travailler prochainement comme auxiliaire de vie scolaire. Si tout se passe bien, j'aimerais beaucoup pouvoir passer un diplôme d'éducatrice spécialisée à l'avenir.
Là, vous avez l'air de sous-entendre qu'en fait, les policiers utiliseraient des armes intermédiaires comme ça.
Stanislas Godon.
Sans qu'il y ait eu avant, notamment une attaque, sans qu'il y ait eu...
Syndicat, Alliance Police Nationale.
Avant, notamment des sommations pour appeler à la dispersion, ce n'est pas le cas. L'usage de la force est gradué. Tout ceci se fait de manière intelligente et graduée, encore une fois.
On ne fait rien, on ne fait que marcher et on se fait tirer dessus en pleine tête.
Stanislas Godon, est-ce qu'il y a discussion là-dessus? Est-ce que parfois, y compris vous, chez les policiers, vous vous dites ce genre d'arme, y compris moi je sais parce que je l'utilise, qu'elle peut être trop dangereuse, donc ne le faisons pas?
Tirer dans la tête de quelqu'un, c'est quoi? Ils peuvent tuer des gens?
Ah non, parce qu'elle est utilisée toujours de manière proportionnée par rapport aux attaques qu'ils subissent, mes collègues. On ne tire pas sur les manifestants parce qu'ils sont de manière pacifique devant nous. On a affaire quand même à des individus qui sont ultra déterminés.
Il est quelle heure, Elena ? Je vois pas.
3h30.
On peut se cacher.
Ouais,
parce que j'ai tellement de douleurs que je suis obligée. Je vais être en traitement pendant longtemps et en rééducation aussi pendant longtemps parce qu'il n'y a pas eu que le coup de flashball, il y a tout ce que ça impliquait. Et donc du coup, voilà, j'en ai pour plusieurs mois à l'hôpital de Garches à faire de la rééducation pour mon œil, pour le cerveau et ensuite une chirurgie au niveau du front. Et voilà, et après ben, travailler sur le reste, voilà. Sur le psychologique surtout, qui n'est pas évident. Mes autres cicatrices, j'avais jamais eu de problème avec ça, mais celle-ci, j'ai du mal à l'appréhender, j'ai du mal à accepter que j'ai une cicatrice sur le visage. Enfin voilà, j'étais, excusez-moi l'expression, mais j'ai un visage classique et maintenant voilà. Je me reconnais pas quand je me regarde dans le miroir. D'habitude, je suis toujours apprêtée, bien coiffée, maquillée. Je peux plus me maquiller, je peux plus me coiffer parce que ça me fait mal. J'ai plus l'impression d'être une femme, j'ai plus l'impression d'être celle que j'étais tout simplement. Mais c'est pas juste que je vive tout ça. J'ai pas mérité tout ça. Et c'est ça aussi que je reproche à l'État, c'est que nous sommes des victimes. Ils nous cachent, ils ne disent rien sur nous, et c'est pas normal. C'est pas normal. La moindre personne qui se prendrait une claque dans la rue, des fois on voit ça à la télé. Je veux dire, ils faisaient bien une vidéo pendant un moment où une nana se prenait une claque par un mec. Ah ça, ils l'ont montré au journal télé. Et les gens qui ont perdu leur œil ou leur joue, les gens qui se sont fait agresser ou tabasser par des policiers, on les montre pas. On montre pas que c'est pas que du physique. On montre pas qu'ils ont traumatisé des centaines et des milliers de Français. Que même moi, j'aimerais retourner dans la rue pour continuer, mais j'ai peur. Il y a des manifestations pour les blessés où j'ai envie d'aller, mais j'ai peur d'y aller. J'ai peur que la police nous tombe dessus. J'ai peur qu'on nous arrête. J'ai peur de... C'est bête, mais j'ai peur. Pourquoi il y a tant de blessés ? Pourquoi je me suis fait tirer dessus en marchant, en plus en m'éloignant des policiers ? Comment on peut se faire tirer dessus en plein visage ? Ce n'est même pas légal. Je suis pas une terroriste, je suis juste une femme qui marchait dans la rue.
Pourquoi elle ? D'ailleurs, on en est à se poser la question si c'est pas fait exprès, justement parce qu'on n'est pas des casseurs et que c'est aux gens normaux qui veulent faire peur et pas aux casseurs qui, de toute façon, ils y vont quoi qu'il arrive. Alors...
Est-ce qu'il va y avoir une enquête de l'IGPN ?
Normalement, c'est ce qui est prévu. La plupart des gens qui vont portent plainte directement avec l'IGPN pour que justement il y ait des poursuites de fait, pour qu'on essaye de retrouver la personne qui a fait ça. Mais bon, on sait très bien que hein, pour les trois quarts des cas, ils vont nous dire oui, c'est bien la police, mais on ne sait pas qui. Donc voilà, donc après, s'il faudra attaquer l'État ou n'importe qui, on attaquera parce qu'il ne faut pas que ça reste impuni. C'est pas nous les casseurs. C'est l'État qui nous casse et qui nous brise. On veut juste vivre, on veut arrêter de survivre, voilà. Ce sont des années où les gens ont rouspété, où les gens ont dit ça va péter, et ça y est, on y est tout simplement. Liberté, égalité, fraternité, on veut juste retrouver ça. Ce sont les Français qui se battent, juste pour une égalité, c'est tout. On ne veut plus se laisser faire, c'est fini. Les Français ont leur mot à dire.
C'est avec les ambitions qu'on attrape le financier, avec les munitions que dérape le policier. C'est une condition de devoir nous laisser vivre. La foule en érection est déjà bien ivre, en réanimation dans des lits noirs et blancs. Ne tire aucune leçon de nos arracheurs de dents. Ils crachent comme des cons sur le pavé des enfants. Les cigarettes s'allument à l'annonce de leurs 13 ans. La détresse est visible, elle se couche dans nos lits. Un matin de novembre, nargué par un suçon, ils ont repris la vie de n'importe quelle façon. De l'accumulation naît la révolution. Une étincelle brille entre deux explosions. Réveille les instincts de tes morbides pulsions. Les gens bien pensants vont quitter leurs fonctions. Notre armée triomphante est rentrée dans Paris. Pénètre dans cette fente aux lèvres déjà meurtries. Un viol quand tu rentres dans une foule asservie. Brûler ces H&M et leurs 12 collections. Du haut des H&M, certains n'ont qu'une saison. Ça chuchote en coulisses et l'élève entend des sons. Les mômes s'établissent, un nouveau dessin. Ça barbote dans la bise de nos belles taches de sang.
Et voilà, alors en fait, la manifestation des femmes est massée des deux côtés, des camionnettes de CRS d'un côté, des camionnettes de l'autre, et plus personne ne peut avancer.
On fait pas chier le peuple français!
Vous venez d'où?
Moi, madame, je suis de la Moselle, mais j'habite le 67 en ce moment. C'est le Bas-Rhin, côté de Strasbourg, Saverne. En vrai, je suis un petit village, ça s'appelle Steinbourg. Et voilà, ça fait depuis le 17 qu'on participe chez nous dans nos régions.
Vous êtes sur les ronds-points aussi?
Oui, j'ai fait les ronds-points, j'ai fait les péages. Bien sûr, j'ai des enfants, je vais être mamie. Et je défends l'honneur de mes anciens. Vous savez comment que c'est? Il faut bien que quelqu'un le fasse. C'est pas notre président, notre gouvernement qui va sortir les pauvres de la galère. Non? Alors voilà, on est là pour le sale boulot. On essaie d'inverser les choses. Et j'espère qu'on gagnera. Ça vient du fond du cœur. De toute façon, on le vit tous. Hein. On est prêt à lâcher le dernier souffle s'il faut pour ça. Mais vous savez, c'est l'avenir des enfants. Si on le fait pas, il y a tout qui s'éteint. De toute façon, si on baisse les bras là, il va nous sécher. Il va nous sécher. On est obligé de continuer.
Vous faites quoi dans la vie, juste?
Je suis intérimaire. Je suis intérimaire, c'est pour ça, à 47 ans, être intérimaire, nos jours, on n'a pas la chance d'avoir un emploi fixe. Donc on cherche les réinsertions, des choses comme ça. Il faut dire ce qu'il y a, hein. Rentrer dans l'Europe, ils ont tous dit c'est bien pour l'économie. Je pense que c'est bien pour l'économie, pour ceux qui ont les moyens d'investir.
Allez, hop, enlève ton gilet, fais genre, il se passe de rien. Ils vont tous embarquer, ils ont prévu un bus, ils ont eu pour art de nous emmener tous. Allez, hop. Enlève ton gilet, on fait style de rien, ton sifflet, tout ça. On marche, j'ai pas fait la route pour rien.
Bon, je vais suivre ma petite troupe, madame. Je pars en guerre. Bonne journée.
On touche pas aux femmes.
C'est honteux. C'est honteux.
C'est interdit.
Honte à vous. Honte à vous.
C'est cagassé, là. Cassez pas. Cassez pas, même si vous en prenez.
L'ordre républicain sera assuré sans complaisance.
Plus de 1600 personnes ont été blessées. Mains arrachées, œil crevé. Des blessures hors du commun pour des manifestations.
Vous savez, on fait pas du maintien d'ordre avec des pâquerettes, j'ai envie de dire. Hein.
Je m'appelle Aurélie, je suis infirmière à Metz, en Lorraine.
Donc c'est vous qui avez pris en charge Vanessa le 15 décembre quand elle a reçu un tir de flashball en plein visage.
C'est ça. Nous, on est des gilets blancs, on porte des gilets blancs avec écrit ambulancier ou secouriste ou infirmier. On est une équipe de professionnels et on veut mettre en fait notre expérience et nos capacités au service des citoyens blessés. Moi, ce qui me choque, c'est que Vanessa, c'est quand même une grande femme, hein, elle fait quand même 1m75, donc pour viser autre chose que la tête, il fallait quand même y aller, quoi. Ou alors c'est qui tirait en l'air. Mais la plupart des blessés que j'ai eus, quand les forces de l'ordre étaient dans les clous, la plupart des blessés qu'on a eus à prendre en charge, c'était au niveau des membres inférieurs ou abdominales. Mais ils ne sont pas censés viser la tête.
Il y a eu beaucoup quand même de tirs hors des clous, de ce que vous avez constaté, vous?
Alors les deux samedis où j'étais à Paris, donc le 8 et le 15 décembre, oui, j'en ai eu pas mal. J'ai eu deux cas très graves. J'ai eu le cas de Vanessa et j'ai eu un monsieur le 8 rue Kepler qui s'est pris un flashball dans la carotide alors qu'il était assis dans un arrêt de bus. Il était avec son frère. Lui, il était beaucoup moins stable que Vanessa. C'est-à-dire qu'on a dû même carrément le perfuser en pleine rue et stabiliser son état en pleine rue. Il était très très mal en point. Il nous faisait déjà ses adieux pour sa famille. Il se voyait mourir, le pauvre monsieur. Donc à part ces deux personnes-là, les plus graves, qui étaient vraiment en urgence vitale, on a eu pas mal de personnes blessées qui ont dû aller se faire suturer au niveau du crâne. Et de samedi en samedi, moi je continue en province à suivre un peu ce qui se passe et à continuer de faire des premiers secours, premiers soins. Et on commence à avoir pas mal de tirs au niveau de la tête. Ouais.
Là, vous me parlez de prise en charge en plein dans la rue. C'est des scènes qu'on voit pas communément en manifestation.
Bah, c'est des scènes de guerre, hein, pour vous dire. Parmi les bénévoles qui étaient autour de nous, qui nous ont aidés à porter les blessés, il y avait des anciens militaires, même anciens légionnaires, et qui m'ont dit clairement, là, c'est des scènes de chaos, c'est des scènes de guerre, où on va chercher les blessés en se disant qu'on est complètement en danger, en fait. C'est-à-dire qu'on met des casques, on se protège comme on peut, on met même des blousons de moto pour avoir des coques et toute protection, pour protéger un peu les épaules, le dos. Mais on sait que quand on va chercher un blessé, on risque de se faire tirer dessus. Donc oui, effectivement, c'est des scènes de guerre, c'est ce qu'on appelle l'humanitaire, quoi. C'est du secourisme en milieu hostile. Nous, on n'est pas du tout formés à ça. La formation infirmière ne prévoit pas ça du tout. C'est un copain hein, qui m'a fait une mini-formation comme ça, accélérée, de ce qu'on appelle la médecine tactique. C'est la médecine de guerre, enfin en milieu hostile, la médecine militaire. Parce que, bah, effectivement, nous, les infirmières, on est habitués à travailler à couvert, hein, dans nos petites maisons de retraite, nos hôpitaux. On n'est pas habitués à soigner les gens en étant soi-même en danger. Donc, c'est vrai que ça fait peur. Après, mon ressenti, c'est surtout que la violence est de plus en plus palpable et les blessés sont de plus en plus graves. C'est-à-dire qu'en province, il y avait au départ, il y a un mois, il y avait des personnes bon, qui se faisaient gazer, etc., qui faisaient un peu de crise d'asthme. Voilà, on arrivait à gérer. Là, il se trouve que samedi dernier, j'étais à Épinal et effectivement, on a commencé à avoir des tirs au niveau de la tête, comme à Paris, il y a un mois.
Est-ce que vous craignez, par exemple, qu'il finisse par y avoir des morts avec ces stratégies policières de viser?
Ah bah oui, parce que Vanessa et Mickaël, je pense que si on n'avait pas été là, en tout cas, Mickaël, il est certain qu'il se serait vidé de son sang. S'il n'y avait eu aucun secours, on le perdait. Hein. Ça, c'est certain.
Ah, ils l'ont niqué. Ah, ils l'ont niqué.
Appelle une ambulance. Appelle une ambulance.
Ouais, c'était pris dans la danse, ça, là.
Vous allez continuer, vous, à les soigner comme ça en manifestation, malgré ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire que vous constatez une escalade de la violence de samedi en samedi?
Je continuerai coûte que coûte. On se bat aussi pour l'avenir de nos enfants. On leur inculque des valeurs de fraternité, de solidarité. Il faut qu'on soit crédible. Donc oui, je continuerai de me battre. Après, il faut savoir que les forces de l'ordre nous voient arriver. Maintenant, bon, ils nous voient quand même tous les samedis. Ils connaissent notre démarche. Ils savent qu'on est là pour n'importe quel citoyen. On s'occupe aussi de beaucoup, beaucoup de civils. J'ai eu pas mal de civils touchés samedi. Une femme enceinte qui s'est pris un flashball dans le ventre, qui était avec ses deux petites filles qui se sont fait gazer.
Donc des gens qui manifestaient pas, quoi, qui étaient des passants, quoi.
Qui faisaient les soldes. Des gens qui faisaient les soldes. Et qui se sont retrouvés comme ça, pris dans le mouvement. Et ce qui nous effraie le plus, c'est vraiment les tirs perdus, quoi. Un flashball perdu. Alors la manifestation de Metz le 29 décembre, les gens se sont fait tirer comme des lapins et moi je suis partie en courant dans une petite rue, j'ai mis les blessés à couvert. J'ai vu un gars apparemment, enfin costaud, sportif et tout, qui a volé à côté de moi. Je me suis dit ça y est, il a été touché à la tête. Non, c'était juste le bras. Donc oui, j'ai eu peur. Je me suis dit si lui, gars costaud, tombe par terre comme ça, moi si c'est un jour mon tour, je vais voler quoi. Je vais voler et après c'est le jeu. Il y a des personnes qui me disent que je suis courageuse, il y en a qui me disent que je suis inconsciente. Je sais pas, c'est peut-être les deux. Mais après, j'ai une conscience citoyenne et professionnelle et je me dis que je peux pas laisser faire ça. Tant que je vois que je peux être utile et que je limite les dégâts, je continuerai d'être sur le terrain.
Il y a un gars, il s'est mangé une grenade de lacrymogène dans la gorge, mon frère. Là, on essaie de le protéger parce qu'il continue à gazer, ces fils de pute. Regarde-moi ça, là, bande de salope de merde. Après, c'est dingue que les gens jettent des pavés. Ouais, on peut le porter si tu veux, mais il faut l'éloigner là. Et il y en a qui se mettent devant, derrière pour faire le trajet là. Allez-y, allez-y. Hey, mettez-vous autour.
Attention.
Il y a un blessé, poussez-vous.
Petite chose que je voudrais rajouter, que j'ai pas eu le temps. Ouais. Les premiers gaz qu'on a vus dans les débuts de mouvement étaient blancs. Là, ils sont jaunes et extrêmement denses. Beaucoup plus agressif. Il y a pas mal de gens qui vomissent, ça c'est quand même très très puissant. Et ça va, je pense que, alors, parce que nous on est obligé d'être assez avant-gardiste, c'est-à-dire qu'à chaque fois on est obligé d'avoir une longueur d'avance pour prévoir le matériel, pour prévoir notre façon d'agir. C'est-à-dire qu'au départ c'était surtout des gens gazés, donc on prenait beaucoup de sérum physiologique pour les yeux, beaucoup de ventoline pour les asthmatiques, etc., etc. Après quand il a commencé à avoir les tirs de flashball, on a commencé à prendre un matériel différent. Et maintenant, on commence encore à anticiper, puisqu'apparemment, il y a certains chars, les chars bleus, qui sont équipés d'un gaz immobilisant, quelque chose comme ça.
Qu'ils avaient, mais qu'ils n'ont pas encore utilisé aux dernières manifestations. Ouais.
Donc, on commence à se demander ce que c'est que ce gaz, comment nous, en tant que soignants, on va pouvoir agir. Donc, je pense qu'on risque d'avoir aussi pas mal de problèmes cardiaques, quoi, hein, et peut-être des arrêts ou des choses comme ça. Mais on commence à se poser la question sur l'évolution des blessures. Ça va être des blessures différentes et des prises en charge complètement différentes. Je pense que c'est pour les dissuader. À force qu'il y ait des blessés graves, les gens vont avoir peur et le mouvement va s'essouffler. Voilà ce qu'ils pensent. Mais je pense que c'est complètement l'inverse qui se produit, c'est que les gens sont de plus en plus en colère et ils ont de moins en moins à perdre. Et vous savez comme moi que les gens qui n'ont pas grand-chose à perdre, c'est certainement les plus dangereux.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Et Et depuis le début de l'émission, le Twitter de David Dufresne, Allo Place Beauvau, c'est pour un signalement, est passé à 259. Vanessa, elle, est le numéro 154. Alors toi, Guy, tu t'es intéressé à ces stratégies de maintien de l'ordre.
Oui, parce qu'alors qu'en marge des mobilisations, des graffitis fleurissent pour dénoncer la banalisation des violences policières, les rares chiffres montrent clairement une banalisation de l'usage de la force par la maréchaussée. Et on se demande si le maintien de l'ordre n'aurait pas remplacé la gestion politique des troubles sociaux. Voilà pourquoi on a voulu rencontrer Sébastien Rocher, qui est politologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du lien police-population. Car en recoupant des analyses européennes, il constate que le bilan n'est pas bon pour les forces de l'ordre françaises. Nos Pandores sont classés dans le dernier tiers des polices européennes en termes de satisfaction des usagers. Alors peut-être que la peur du gendarme, fut-il Robocop, ne suffit pas. Son efficacité dépend plutôt de la confiance des citoyens.
Un petit peu de glaçon.
Merci. Sébastien Rocher, quand on entend le président parler de la foule haineuse, quand on entend le gouvernement parler de factieux, autant de mots qu'on a entendus sur les chaînes d'infos en continu, vous répondez, pour calmer le jeu, la France n'est pas au bord du chaos.
Il y a une stratégie de dramatisation, qui est une stratégie de communication du ministère de l'Intérieur et je pense de la présidence, qui est de dire, en face de nous, il y a des gens très méchants, donc on a le droit d'être violent avec eux. Voilà, donc l'idée, c'est de dire, nous allons utiliser toute la force légale possible.
Christophe Castaner disait que les manifestants venaient pour tuer du flic.
Parce que ce à quoi nous avons eu affaire, c'est aussi la volonté de tuer et de tuer nos forces de l'ordre.
Voilà, cette dramatisation en disant les autres veulent nous tuer, c'est assorti d'un déploiement de force et on les a tous sortis, ce qu'on ne fait jamais. L'idée était de montrer la force de l'État en montrant la masse des agents à cheval, à moto, dans les blindés, avec des chiens. Donc en sort, en fait, toute la police de France était dans la rue face à ce qui a été appelé une menace factieuse.
Ce sont des gens qui s'en sont pris à la République, ce sont des gens qui ont voulu marcher sur l'Élysée. Ce ne sont pas des manifestants. Ce sont des factieux.
Merci beaucoup, Aurore Berger. Merci.
On a vu qu'ils ont été capables d'endommager la porte d'un ministère avec un monte-charge. C'est dire la menace révolutionnaire qui pesait vraiment sur la France ce jour-là.
On va voir ces images de vidéosurveillance où l'on voit effectivement ces individus qui ont défoncé la porte du ministère de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. On voit qu'ils portent pour la plupart des gilets jaunes. L'un d'eux va sonner à la porte du ministère. Ils prennent pas la peine de dissimuler leur visage. Image incroyable, un engin de chantier qui donc défonce la porte de ce ministère.
C'est pas moi qui ai été attaqué. C'est la République. C'est les institutions. Donc ceux qui ont aujourd'hui utilisé un engin de chantier pour défoncer le portail de ce ministère, ils ont attaqué la Maison de France.
Ça n'y ressemble absolument pas, c'est des actions décousues.
Surtout qu'ils ont déguerpi aussitôt.
C'est simplement des opportunités, des gens qui sont chauffés par l'action, les échauffourés avec la police et qui à un moment donné ont endommagé la porte d'un ministère. Bon, c'est pas recommandable, mais on n'appelle pas ça une révolution. Au sens où il y a des groupes qui veulent changer de régime. Ils veulent au mieux introduire le référendum d'initiative citoyenne. Bon. C'est une révolution pour la France qui n'est pas habituée à entendre les citoyens, mais ce n'est pas défaire les institutions de la Ve République.
Mais alors, vous dites que les autorités ont voulu montrer la force, le monopole de la violence, comme on dit. Et la réponse à ça, ça a été de voir, par exemple, fleurir des graffitis dans les rues qui disent « non à la banalisation des violences policières ». En faisant le lien avec l'affaire Benalla, qui lui avait cogné, mais sans la légitimité de la police, et un usage, semble-t-il, massif, de la violence.
C'est un peu comme les slogans de mai 68, on a des slogans heureux. À la banalisation, ça voulait dire finalement, banalisation, et dans les deux cas, un usage non nécessaire, non proportionné de la force.
Si on voit le chiffre du 1er décembre, c'était 8000 lacrymogènes, 1193 LBD-40 qui remplacent le flashball, et 1040 grenades désencerclantes, ce qui a fait dire un peu de comptabilité que c'était en une journée, ce 1er décembre, plus que 2017, qui était déjà une année mouvementée socialement.
Ah oui, c'est indiscutable. La police et la gendarmerie utilisent massivement ces armes à létalité réduite, ça veut dire qu'ils ne vous tuent pas à tous les coups, mais elles peuvent occasionner la mort, comme à Sivens avec les grenades.
Rémi Fraisse.
Et Rémi Fraisse. Donc ces armes-là, leur usage s'est beaucoup développé et ce sont des armes qui, encore une fois, causent des dommages irréversibles parce qu'elles font des victimes très nombreuses, tirent au niveau de la tête et elles ont aussi pour effet de radicaliser la population contre la police, alors que la fonction de la police est de contenir en fait une manifestation dans certaines limites, mais surtout de lui permettre de s'exprimer. La fonction de la police en démocratie, c'est pas d'empêcher le désordre des manifestations, c'est de permettre l'exercice des libertés fondamentales. Et la liberté d'opinion est un de ses droits fondamentaux. Donc elle devrait y concourir. Et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met en porte-à-faux. Et un certain nombre de syndicats, et même des syndicats plutôt conservateurs, ont dit c'est pas un match police contre gilets jaunes. Bon, ce que je pense aussi, c'est d'abord un exercice de cohésion sociale qui relève du gouvernement. Voilà, on en est là.
Je le dis.
Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur.
Ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée savent qu'ils seront complices de ces manifestations.
Luc Ferry.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences.
Parce qu'il y a,
c'est insupportable.
Mais parce qu'il y a un risque.
Non,
le risque, vous connaissez.
Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. On a, je crois, la 4e armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies.
Sébastien Rocher, si on veut revenir à ce qui se passe en ce moment avec les gilets jaunes, j'ai deux images qui se télescopent. La première, c'est l'interview du Premier ministre sur TF1 avec M. Boulot.
Bonsoir, Monsieur le Premier ministre.
Bonsoir.
Qui n'a pas une seule fois mentionné le terme de violence policière.
Je voudrais qu'on parle très concrètement d'épisodes qui ont beaucoup frappé l'esprit
avec
des Français.
Plaisir. Et qui a dit les vidéos qui ont choqué les Français, voilà les trois vidéos, et en montrant
des épisodes d'extrême violence dont les Français se souviennent.
Des vidéos de violence, d'altercation des manifestants avec la police. Mais aucune de ces images qui pourtant, on le voit, tournent en boucle, qui sont recensées par un journaliste, David Dufresne, qui fait « Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement ». On en est à plus de 250 aujourd'hui, des vidéos d'exemples filmés de violations manifestes du code de conduite des policiers.
Jusqu'à présent, effectivement, on avait essentiellement la parole du ministre qui venait à la télévision dire la vérité. Bon, et puis on avait à côté de ça la parole des représentants syndicaux qui viennent parler et nous expliquaient que tout allait bien. La révolution en matière de contrôle démocratique de la police va probablement venir du téléphone mobile. C'est probablement ce qui est en train de se passer. Jamais on a documenté avec une telle précision des centaines de cas dans lequel la police a fait usage de la violence et pour lesquels, probablement, pour un grand nombre d'entre eux, elle n'aurait pas dû. Et pour la première fois, les juges vont être obligés de regarder à la suite des enquêtes ces centaines de vidéos. Et jusqu'à présent, on n'avait que des collectifs qui s'étaient formés à telle ou telle occasion, mais on n'avait pas une documentation sur les pratiques policières. En tout cas, ce sont des éléments de preuve dont on n'a jamais disposé. Et donc, on a deux paroles. On a la parole du ministre, la parole des syndicats, et puis les citoyens qui envoient en fait leur témoignage. Et il va falloir faire avec tout ça.
Depuis le début du mouvement, vous recensez à travers les réseaux sociaux ce que l'on vous fait remonter comme information, quelques cas de blessures, ce qui pourrait être ce que l'on appelle, et je vais mettre des guillemets, des violences policières. David Dufresne, c'est bien cela ?
Oui, enfin moi je vais pas mettre de guillemets et puis je vais pas dire quelques cas, je vais dire 240 cas. Les violences policières que je montre existent dans ce mouvement comme on n'en a jamais vu et donc j'essaie de lutter contre ce déni médiatique et politique qui consiste à ne pas voir ce qui se passe.
Pour la 4e journée de mobilisation des Gilets jaunes, les autorités ont sorti les grands moyens. Près de 90 000 policiers sont déployés dans tout le pays. À Paris, 14 blindés quadrillent la ville. Il ne s'agit plus de riposter aux attaques, ils passent à l'offensive.
Les flics, c'est chic. Ha, ha, ha. Les flics, c'est vraiment chic.
Dès le matin, des groupes de CRS mobiles chargent les manifestants. Ils tentent de les disperser par des tirs de flashball. Cet homme apparemment inoffensif est visé.
Sébastien Rocher, un des champs de votre travail, c'est les relations de la police avec ces populations. Pas simplement en France, mais comparativement en France et dans les démocraties occidentales.
Oui, tout à fait. Oui, alors, il y a chez les citoyens une image de la police et la France est en Europe mal placée. On a beaucoup d'études qui ont été développées sur la performance policière, c'est la qualité du service qu'elle rend. Un service public se mesure par la qualité du service qu'il rend.
Comme on mesure l'hôpital public, comme on mesure l'éducation nationale, la police nationale devrait elle aussi répondre d'un service client presque.
Voilà, c'est cette idée-là qu'on a développée donc avec les financements de l'Europe. Et donc on a commencé à pouvoir mesurer pour les 27 pays de l'Union européenne la performance policière et pouvoir la comparer à la police française, la police allemande, la police britannique et la police des pays nordiques. Et la France est bien souvent située entre la Grèce et la Hongrie.
C'est dans le dernier tiers.
Voilà, elle est en haut du tiers du bas. Elle est toujours sous la moyenne dès qu'il s'agit, par exemple, de la qualité de l'accueil pour les plaintes. La police française est mal placée. Sur l'efficacité perçue de l'action contre la délinquance, la France est mal placée. Sur l'égalité des citoyens devant la police, la France est très mal placée. Le fait que les riches sont mieux traités que les pauvres, et que les Blancs sont mieux traités que les Noirs, la France fait un score qui est particulièrement mauvais. Or, pour un service public, l'égalité, c'est le fondement.
Vous dites que la relation de la population avec la police dépend de la confiance, et la confiance repose sur la légitimité du rôle et de la place de la police.
Oui, voilà, et cette légitimité, elle s'apprécie pour les gens à travers l'expérience qu'ils font de la police. C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui ont reçu un tir de lanceur de balles de défense dans le dos, ils auront du mal à avoir une opinion positive de la police. Et ça, pour longtemps. Les adolescents à Mantes-la-Jolie qui ont été mis à genoux, une grande partie d'entre eux vont garder très longtemps une image défavorable.
Voilà une classe qui se tient sage.
L'Angleterre a introduit cette idée de service à la population et de noter les policiers à partir de la confiance mesurée par la population. En France, ce n'est pas le cas.
Vous voulez dire qu'on en est encore à la crainte du gendarme ?
C'est ce qui est porté bien souvent par les organisations professionnelles, l'idée qu'on ne nous craint pas assez. Là où les pays nordiques se sont dit la bonne police, c'est la police qui gagne la confiance. Pareil pour les manifestations, les pays nordiques sont ceux qui ont poussé au renouvellement des doctrines de maintien de l'ordre avec le good dialogue, le bon dialogue, de ne pas utiliser par exemple des grenades de désencerclement.
Je crois qu'on est les seuls en France à les utiliser.
Pour l'Angleterre, ils ne les utilisent pas, pour l'Allemagne, ils ne les utilisent pas.
Mais voilà. Ils ne les utilisent pas parce que c'est trop dangereux.
Parce que c'est dangereux, oui, ils ont jugé en fait que ce ne sont pas des moyens adaptés pour faire le maintien de l'ordre, parce que l'ordre public, c'est l'ensemble des règles de droit. Et donc, les règles qui permettent aux gens de dire au pouvoir qu'ils ne sont pas contents.
Il matraquait, 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 matraquait les jeunes, les beaux, les blancs et les foncés, et même les petits français, et c'était pas truqué. Il matraquait, 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 matraquait dans les rues, les troquets, dans son froc étriqué, complètement détraqué, et c'était pas truqué.
Et donc, ce serait pas mal d'essayer d'arrêter un moment de tirer au LBD 40 et à la grenade désencerclante chaque week-end sur les gilets jaunes. Ça va laisser des traces, tout ce qui s'est passé.
Oui, ça va laisser des traces. Oui. Comme c'est sans précédent, ça va laisser des traces. C'est sans précédent à plusieurs titres. C'est sans précédent par le fait qu'il y ait cette mobilisation sans chef à cette échelle et pendant cette durée, parce qu'on avait déjà connu ces formes de conflits qui sont plus vraiment du maintien de l'ordre, mais qui sont du conflit entre la police et les protestataires, mais jamais à cette échelle. Donc forcément, c'est un phénomène qui va marquer les esprits comme probablement les affaires Malik Houssekine ou d'autres affaires emblématiques des relations entre police et population.
Ça marque les esprits parce que ça marque aussi les chairs.
Parce que ça marque les chairs, par la taille encore une fois, par les nombres, par la gravité des blessures irréversibles, oui, ça va marquer l'histoire de la police en France.
C'était Comme un bruit qui court. Merci à toutes et à tous. Toutes les informations sont sur le site franceinter.fr. On se retrouve samedi prochain à 16h.